crois, parce que vous allez nous parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup toutes les deux. Alors, il y en a qui disent Moucha. Mmh. Et
c'est les Français.
Voilà.
Et les Tchèques.
J'ai appelé un de mes ex-profs hier qui m'a dit mais non, ça se dit Moucha.
Oui.
Donc, au choix, Moucha, Moucha.
Alors, moi, je dirais Moucha, mais les auditeurs ne sauraient pas de qui je parle. Donc, je vais dire Moucha.
D'accord, on va dire Moucha.
Moucha. On va rester bien français et prononcer français. Alors, Alphonse Moucha, ou l'invention de l'affiche Art Nouveau. Donc, on se voit une nouvelle fois sur les ondes pour parler de l'art et d'histoire de l'art. Et cette fois-ci, donc, cette rencontre, je voudrais la consacrer à ce thème de l'affiche Art Nouveau qui aurait été inventé par Alphonse Moucha. Moucha était un artiste donc, d'origine tchèque qui était né en 1860 et était mort en 1939, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il a été formé d'abord en autodidacte dans l'Empire austro-hongrois dans lequel il est né. Et ensuite, grâce au mécénat du comte Kuhn, il est parti en 1885 à Munich et deux ans plus tard à Paris, où il fréquenta l'Académie Julien et l'Académie Colorassi. Alors Moucha était très clairement attaché à cet univers symboliste qui se crée autour de ces lieux d'enseignement. Ses contemporains et ses collègues de l'Académie Julien sont par exemple les Nabis, hein, le groupe d'artistes qui se forme donc à Paris à ce moment-là, autour de Maurice Denis, Paul Serruzier, etc. Moucha se lie aussi d'amitié avec Paul Gauguin, qui était bien sûr un grand nom important pour ces jeunes artistes, et notamment pour ce groupe de l'Académie Julien. Mais avant d'approcher ces grands artistes et poètes de son temps, Moucha vivotait à Paris en dessinant les décors de théâtre et quelques affiches, jusqu'au jour où sa vie a basculé grâce à un événement totalement inattendu. Donc on est le jour de Noël 1894, on est toujours à Paris, et Moucha remplace un ami artiste qui est parti en vacances et qui lui confie la correction de ses épreuves dans l'imprimerie Le Mercier. Et c'est à ce moment-là que l'imprimeur reçoit une commande urgente d'affiches émanant d'une personnalité célèbre. C'est l'actrice Sarah Bernhardt. Elle souhaite une affiche pour son nouveau spectacle appelé Gismonda, une affiche qui doit être faite rapidement pour être placardée sur le mur de Paris le 1er janvier 1895, soit une semaine plus tard. Et l'imprimeur qui n'a personne sous la main que ce jeune dessinateur tchèque, jusqu'alors parfaitement inconnu, demande à Moucha une proposition et il part chez la diva avec une affiche très excentrique, s'attendant évidemment à être renvoyé aussi sec. Mais Sarah Bernhardt, alors âgée de 50 ans, n'en est pas au bout de son originalité. Elle s'enthousiasme devant ce dessin de grande taille qui la représente un pied, paré d'ornements raffinés. Et le public parisien a la même réaction lorsqu'il voit l'affiche dans la rue. Cette affiche est applaudie à l'unanimité. Et c'est donc le début assez incroyable de la carrière de Moucha comme affichiste le plus recherché à Paris, celui qui invente véritablement l'affiche Art Nouveau. Alors, on va d'ailleurs s'arrêter sur ce terme. Qu'est-ce que c'est, l'Art Nouveau? Eh bien, c'est un style aux facettes multiples qui se manifeste brillamment dans le domaine de l'architecture et des arts décoratifs à la fin du XIXe siècle. Il porte d'ailleurs plein d'autres dénominations en fonction du pays dans lequel il se trouve. Et en ce qui concerne donc le terme français, Art Nouveau, il provient de l'enseigne du pavillon d'exposition du marchand Samuel Bink, qui en 1900 réunit les objets d'art raffinés, signés par des jeunes créateurs originaux, tels l'architecte Hector Guimard. L'Art Nouveau est donc imprégné de l'univers de la peinture symboliste. Il est mystérieux, délicat, décadent. L'Art Nouveau parisien puise l'inspiration dans la nature. La tige est alors préférée à la fleur, comme le montrent les bouches de métro de Hector Guimard. Mais sa plus importante source d'inspiration, c'est la femme, créature subtile, fatale, angélique et diabolique à la fois. Sa chevelure est faite de longues mèches qui se fondent en arabesques végétales ou abstraites. Elle enivre les artistes qui l'adulent est l'or de bijoux recherché. Et c'est tout cela que Moucha sait traduire avec brio dans le domaine de l'affiche. L'affiche qui était jusqu'alors une image criarde, la sœur pauvre de la peinture. Sa Gismonda est faite de tons pastels, de détails décoratifs très fouillés, de lettres élégantes. La silhouette de Sarah Bernhardt en impose par son lourd vêtement aux allures quasiment sculpturales, mais le visage est plein de délicatesse. La tête est couronnée de fleurs superbes. Moucha dessine avec un trait sûr. Il bâtit une composition époustouflante où la géométrie rigoureuse s'allie à l'arabesque. Ses références plastiques sont multiples. Il y a là une ampleur de Byzance, une note japonisante, une allusion à la Rome antique, une anecdote gothique, un soupçon de l'art barbare. Dès lors, chaque affiche produite par l'artiste exploite au maximum les possibilités qui sont offertes par la technique de chromolithographie. Elle permet en effet de produire les images d'une grande délicatesse colorée. Chaque affiche est aussi une image complexe, ou voisine des symboles divers et variés, dont la signification exacte échappe au commun des mortels. Qui, pourtant, y trouve une satisfaction d'ordre esthétique. Le style Moucha, reconnaissable au premier coup d'œil, correspond en effet au goût dominant de l'époque. Mieux, il résume les aspirations de la société de fin de siècle. La carrière de Moucha affichiste dura une petite dizaine d'années à Paris. Cela suffisait pourtant de faire de lui une figure incontournable du monde publicitaire français. Ces figures quelque peu stéréotypées de femmes sensuelles, au corps élancé, au visage doux, aux chevelures envoûtantes, aux robes et bijoux magnifiques, peuplèrent les rues de Paris, la capitale du XIXe siècle, vantant les produits aussi divers que variés. Spectacles, alcool, bière ou cognac, savon, chocolat, biscuits, papier à cigarettes. Les affiches de Moucha jouent sur le registre du désir. Une belle femme est associée à un objet de consommation pour créer le besoin d'achat. Cette femme d'allure fière est toujours représentée seule, plongée dans ses pensées ou lançant un regard langoureux au spectateur. Le contour sûr et épuré qui cerne sa silhouette lui donne une forte présence. Mais sa peau claire, d'un grain parfait, l'éloigne aussitôt du monde d'ici-bas. C'est une femme de rêve, choyée par la nature et par l'homme. Comment lui résister ? À côté de sa production d'affiches, Moucha était aussi sollicité par son imprimeur pour dessiner des calendriers, des cartes postales et des panneaux décoratifs. Il inventa ainsi des figures allégoriques, la danse, la musique, le crépuscule ou l'aurore, l'été ou l'hiver, toujours entouré de motifs ornementaux d'une extrême minutie qui chargeait les compositions de tout leur sens. Cet univers symbolique, patiemment élaboré par l'artiste tchèque, s'est trouvé décliné sur une multitude d'images imprimées qui participaient donc à imposer le style Moucha dans la société française, voire à l'étranger. Pour Sarah Bernhardt, il fournissait inlassablement des affiches qui la montraient toujours belle et jeune, alors même qu'elle avait déjà une soixantaine d'années. Ce sont les images d'une diva immortelle, celle qui, par son talent et son énergie extraordinaire, défie le temps. C'est Sarah Bernhardt, d'ailleurs, avec ses innombrables contacts, qui aidera Moucha à s'établir aux États-Unis en 1904. Moucha rêvait en effet de gagner beaucoup d'argent, qui n'en rêve pas. Mais pour un projet précis, il voulait abandonner le métier de dessinateur publicitaire et se vouer à la peinture. Il avait un vrai projet patriotique, offrir à sa nation un grand cycle didactique sur le thème de l'histoire des peuples slaves. Et cette épopée slave, comme il l'a appelée, il a pu finalement la réaliser, assez tardivement toutefois, au moment même où les Tchèques accédaient à l'autonomie politique, en 1918, et se libérer de facto du joug germanique que Moucha dénonçait dans ses toiles. Ses peintures grandiloquentes de l'épopée slave n'ont ni la fraîcheur ni la force des affiches parisiennes de Moucha qui ont fait sa gloire. Dans l'épopée slave, il n'y a pas de place pour l'aplat décoratif, pour le symbole sophistiqué, ni même pour les lettres raffinées dans lesquelles Moucha excellait. Son talent de dessinateur virtuose s'est épanoui avant tout dans le domaine de l'image imprimée, qu'il a pu révolutionner grâce à une rencontre improbable que le destin lui a réservée. Mais aurait-il su en tirer profit s'il n'avait pas été à la hauteur? Heureusement, il a relevé le défi et il a contribué à façonner l'art nouveau parisien comme un art d'excellence et d'audace inventive.
Bien, Sonia, c'est toujours aussi passionnant. Hein. Mais c'est vrai que l'art nouveau, on le retrouve à Paris dans pas mal d'endroits.
On le retrouve même à Brest. Hein. Il y a même des immeubles qui sont marqués par l'art nouveau. Il faut savoir que il y a toujours un petit peu de décalage dans l'architecture de province. Donc les immeubles art nouveau à Brest datent plutôt de 1910-1911. Il y en a encore dans la rue Jean Jaurès, pas loin de Saint-Martin, où la rue est un peu moins détruite. Vous voyez, où il y a la poste, juste un tout petit peu plus haut. Il y a quelques immeubles avec des très belles ouvertures. Donc on en trouve à Brest aussi, oui.
Je voyais nos garçons présents à la radio planer quand vous parliez des femmes peintes par Mouchard. C'est vrai que c'est quand même très particulier. Comment dire, ces affiches, elles sont reconnaissables parmi...
Oui, elles sont reconnaissables. Oui, parmi mille. Alors après, elles ont été beaucoup imitées. Hein. Donc après, il y a des faux Mouchard aussi. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que l'affiche avant était... bon, il y avait Chéret, par exemple, qui était un affichiste important. Il y avait bien sûr aussi Toulouse-Lautrec, dans le coup. Mais on était dans une image à laquelle on reviendra d'ailleurs après, plus tard, très à plat. Alors que Mouchard, il a su saisir les moyens techniques en fait qui lui étaient offerts, les possibilités techniques, et il a su développer ses tons pastels et des nuances très légères de la peau. Donc on a toujours une impression en même temps du volume très sensuel et en même temps avec énormément d'aplats, mais qui sont toujours traités avec donc beaucoup de dessins, beaucoup de détails et toujours comme quelque chose de décoratif.
Avec un style tout à fait personnel. Hein.
Oui, voilà, style. Alors,
donc, nous, on l'a visité avec Nelly, on est allé
au musée Mouchard.
Le musée Mouchard, c'est fantastique, c'est subjugant.
Bah, surtout, non, on tombe surtout sur le charme, une image, vous pouvez la regarder une éternité, parce que là, pour le coup. Voilà. Il y a tellement de choses à regarder, comme beaucoup dans la peinture symbolise. On peut penser à Gustave Moreau, c'est la même chose. Hein. Il y a beaucoup de détails.
Oui, dans le symbolisme, voilà. Il y a énormément de petits détails.
Oui. Hein, pas toujours, détails, mais il y a des artistes. Oui, il y a des artistes comme ça. Et d'ailleurs, après, vous pouvez penser aussi à l'art nouveau viennois. Vous pouvez penser à Klimt et vous allez retrouver ces mêmes combinaisons de volume et d'aplats dans les peintures de Klimt. Alors Klimt était sans doute un peintre plus original que Mouchard, parce que Mouchard en tant que peintre, il glissait facilement vers une suavité un peu académique. Hein. C'est justement l'affiche, l'image imprimée qui l'a sauvé de la médiocrité peut-être, oui. On pourrait dire comme ça.
Oui, puis il y a une inspiration romantique évidente, idéalisation de la femme.
Oui, bah, de toute façon.
Fin 19e, voilà. On sent bien que.
De toute façon, le symbolisme, il poursuit le romantisme, en fait. Hein. C'est un fil dans l'histoire de l'art. C'est une vraie attitude qu'on a par rapport à la vie, au monde, la passion, le sentiment, l'émotion, la sensualité, tout cela qui passe du romantisme au symbolisme. Et qui continue jusqu'à nos jours. Hein.